Je suis ravie d'annoncer que nous serons à VivaTech ce mercredi 22 mai pour modérer la table ronde « Rendre sa place aux médecins vers une santé plus humaine grâce aux données » organisée par Abbott avec des invités exceptionnels. Alors n'oubliez pas, rendez-vous le 22 mai à 12h30 à VivaTech. Un grand merci à Abbott pour leur confiance. Je suis Anka Pétré et vous écoutez Mentor, le podcast qui donne la parole aux grands leaders de la santé. Mon ambition, vous permettre d'apprendre et de vous inspirer des meilleurs. Mentor est un podcast de MedCheck Studio, produit en partenariat avec Pharmaceutique, le média incontournable des décideurs de la santé. Bonne écoute. Épisode 20, Stéphane Rock. La volonté façonne le destin. C'est le credo qui décrit le mieux Stéphane Rock, ancien cadre dirigeant du groupe AFM Téléthon, DG de Médecins Sans Frontières et du mouvement politique En Marche. Originaire de Dijon, élevé dans un milieu modeste, Stéphane a tracé une route marquée par une quête incessante de sens et d'engagement. De ses premiers pas dans une aumônerie où il a cultivé une passion pour le débat et la réflexion philosophique, à ses engagements humanitaires, chaque chapitre de sa vie reflète une décision consciente de ne pas laisser le courant décider de son chemin. Au-delà de sa carrière diversifiée, du secteur public à des rôles influents dans l'humanitaire et la politique, Stéphane incarne l'essence même du leadership éclairé. Cet épisode offre un regard unique sur une trajectoire où chaque choix est un acte de liberté et chaque étape un témoignage de la puissance de l'action engagée. Bienvenue dans Mentor. Leçon 1. J'ai décidé que je ne me laisserai pas porter par le courant.
Je suis né à Dijon, où j'ai passé 19 ans. Je suis issu d'un milieu modeste, de parents employés dans la fonction publique, et dans un environnement qui était plutôt un environnement urbain, proche de banlieue. Mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans et donc j'ai grandi un certain nombre d'années seul avec ma mère. J'étais un enfant très curieux, très scolaire. Tout m'intéressait et tout m'intéresse toujours. Et donc j'allais avec plaisir à l'école, puis au collège, puis au lycée. Je faisais beaucoup d'activités extrascolaires. Je faisais beaucoup de Scrabble. Alors c'est un sport cérébral, mais c'est plutôt une activité en effet de jeu. Donc je jouais énormément au Scrabble entre l'âge de 11 et 20 ans. J'étais également impliqué dans une aumônerie à partir du collège où j'étais en fait l'un des jeunes qui était accueilli par cette aumônerie jusqu'à la fin du lycée, là où je suis devenu moi-même un accompagnateur des plus jeunes. Donc c'est une expérience qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup enrichi. Ma famille, j'avais reçu une éducation, j'allais dire catholique classique, sans beaucoup de ferveur ni croyance, mais c'était plutôt un standard familial. Ma mère étant originaire d'un milieu plutôt paysan. C'était l'histoire qui se reproduisait. Et j'ai grandi donc dans cette ambiance catholique jusqu'à ce que donc j'intègre cette aumônerie qui était une aumônerie très, on dirait, progressiste, très ouverte, qui donnait envie d'aborder des sujets de philosophie, des sujets politiques, qui étaient passionnants. Et donc j'ai passé pas mal de temps à débattre, à échanger des idées dans cette aumônerie. Et puis, à l'âge de 17-18 ans, j'étais moi-même animateur et donc j'ai accompagné pas mal de jeunes collégiens et lycéens dans leurs réflexions sur le sens de la vie, les combats actuels, les combats à venir. C'était vraiment une expérience très passionnante. Donc, j'alternais entre le judo, l'aumônerie, le Scrabble et un petit peu l'école quand même. Ce qui me plaisait énormément, c'était débattre dans un milieu favorable à l'échange d'idées, sans aucun interdit. Ça ressemble, c'est amusant, à tous les briefings de management qu'on entend aujourd'hui. Cette réunion, les règles du jeu, il faudra être bienveillant, il ne faudra pas critiquer, laisser l'autre s'exprimer, etc. Voilà, c'était ces règles-là, mais qui étaient dites autrement. Et donc, on pouvait parler de tout, avec tout le monde. Il n'y avait pas de jugement. Et c'était passionnant pour faire grandir ses idées, pour apprendre à débattre. Dans un état d'esprit ou dans un environnement catholique à la base, mais qu'on oubliait très vite, puisque en fait l'enjeu de cet abbé qui nous accompagnait, c'était plutôt de nous faire grandir, de nous faire débattre et nous faire échanger les uns les autres que toute action de prosélytisme. Donc c'était pas du tout le cas. Et c'est pour ça que j'ai poursuivi ensuite en étant moi-même tuteur, j'allais dire, ou mentor de plus jeunes. Et c'était passionnant, il y avait des écrits un peu philosophiques, un peu politiques. C'est vrai que c'est une expérience qui m'a beaucoup plu, que j'ai quitté dès que j'ai quitté évidemment Dijon, mais c'était un bon souvenir pour moi. Les sujets qui me passionnaient, c'était principalement autour de la liberté, du libre arbitre, de la capacité de chacun à choisir, ou à minima à imprimer son destin, ou à orienter son chemin. J'ai souvenir d'un petit ouvrage qui était disponible et qui m'avait beaucoup marqué. Je crois que c'est étonnant comme quoi des rencontres avec 10 pages d'un texte peuvent, quelques dizaines d'années plus tard, te faire sourire en disant finalement ça m'a beaucoup appris, beaucoup apporté. C'est une parabole, je pense, j'imagine, d'un morceau de bois qui flottait dans un ruisseau et qui était par définition emmené par le flot de l'eau. Et donc, ce petit bâton de bois ne décidait rien, en fait, était porté par le courant. Et tout le sens des échanges autour de cette parabole, ou je ne sais pas quelle autre formule, c'était de est-ce qu'on souhaite être comme ce morceau de bois ou est-ce qu'on souhaite pouvoir agir ? Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi, discuté sur ces sujets. Ça m'a beaucoup conduit par la suite à assumer mes choix et à décider que je ne me laisserais pas porter par le courant, mais que j'allais imprimer les virages ou les changements que je souhaitais. Et il y en a eu quelques-uns. Donc c'est vrai que maintenant que tu m'y fais penser, ces échanges m'ont beaucoup construit.
Pendant toute sa jeunesse, Stéphane a été captivé par les questions d'injustice sociale et d'émancipation des personnes opprimées, délaissées, oubliées ou négligées. Mais à l'âge de 25 ans, et bien qu'attaché aux valeurs portées par la religion, sa pratique s'arrête et son regard vis-à-vis du fonctionnement de l'Église devient plus critique. Il reste cependant convaincu de l'importance de la liberté de choix et s'investit en faveur de ceux dont la vie semble avoir compromis le libre arbitre.
Je fais partie de ceux qui pensent qu'on a toujours le choix. Récemment, j'ai vu un documentaire sur Einstein qui était assez intéressant, et quand il a hésité à quitter l'Allemagne, ce qu'il a fortement décidé à quitter l'Allemagne alors que les risques liés à la montée du nazisme étaient grandissants, qu'il est allé dans une boutique où il avait ses habitudes et il a vu Mein Kampf qui était en vente dans la boutique. Le commerçant lui a dit qu'il n'avait pas eu le choix et la phrase est tombée comme une sanction en disant « on a toujours le choix ». Et quelques jours plus tard, alors je ne sais pas si c'est romancé, mais il quitte l'Allemagne pour les États-Unis. Mais donc cette logique d'avoir le choix, de pourquoi on a toujours le choix et de comment on se donne les capacités de choisir, voilà, c'est tout un sujet, c'est un ensemble d'idées qui m'ont plu, qui m'ont passionné, qui me passionnent encore aujourd'hui. Et qui explique pourquoi, plus tard, je vais choisir de m'orienter vers un combat humanitaire, vers un combat pour les malades oubliés. Toujours ce choix de donner un sens à ce que tu fais et de se l'autoriser. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, souvent, sont pris dans un... sont emmenées par le ruisseau hein, de tout à l'heure et qui sont emmenées par leur environnement, par leurs contraintes sociales, leurs contraintes d'image, leurs contraintes financières. Ils ont mis le doigt dans un engrenage et... Et cette liberté-là, pour moi, elle est capitale de la conserver. Et à chaque fois que j'ai été amené à changer d'orientation dans ma carrière, une de mes forces a été de ne jamais me sentir prisonnier par aucune contrainte d'aucune sorte, y compris financière, d'avoir toujours à l'esprit la... C'est presque une règle que je me fixe. Et je ne veux pas me sentir empêché de prendre une décision. Et donc, même si la décision conduit à un changement drastique de niveau de vie... Dans ma situation, je pouvais me le permettre. C'est peut-être pas vrai dans toutes les situations. Les combats que j'ai été amené à porter et que je continue et que je continuerai à porter sont souvent des combats aux côtés ou en faveur de personnes qui n'ont pas toutes les capacités de choix et qui se retrouvent souvent dans les situations difficiles par... soit par un accident génétique, dans le cas des maladies rares, soit par un accident géopolitique ou une catastrophe naturelle, dans le cas des urgences ou des conflits. Et c'est amusant la phrase que tu soulignes, parce qu'un de mes mentors, intellectuellement parlant, qui est Ronnie Broman, hein, qui a été donc président parmi les fondateurs de Médecins Sans Frontières et un des présidents, et qui est toujours très impliqué dans les réflexions autour de l'humanitaire et des MSF, j'avais été impressionné par plusieurs de ces interventions, plusieurs de ces débats, et notamment celui autour de la capacité de choisir et de prendre des décisions par rapport à sa propre vie, considérant que l'humanitaire avait pour but de ramener les personnes à un niveau tel qu'ils puissent ensuite être en capacité de décider de leur propre vie. C'est-à-dire que considérer qu'à un moment donné, du fait d'un conflit, du fait d'une action terroriste, du fait d'une catastrophe naturelle, du fait d'une épidémie, les personnes perdent tout ce qu'elles ont, sont évidemment malmenées par le contexte environnant et n'ont pas la capacité elles-mêmes de réagir seules, d'où l'action humanitaire qui a pour but, bien sûr, de sauver ces personnes, de les soulager, de les guérir, dans le cas de l'action médicale, mais dont la fin, et c'est souvent les débats qui ont animé le champ humanitaire, en tout cas autour de Médecins Sans Frontières, qui est de dire, mais quand vous venez, pourquoi vous repartez? Les personnes sont toujours en situation de pauvreté quand vous partez. Et c'est vrai que c'est des débats, presque sans fin, des débats passionnants, parce que tout dépend du point de vue de chacun, mais la philosophie qui animait Ronnie Broman et qui, moi, m'avait beaucoup plu et attiré chez Médecins Sans Frontières, c'était de se dire... L'action humanitaire va s'arrêter quand les personnes seront en capacité de choisir par elles-mêmes et d'avoir une capacité d'influer sur leur vie, alors que dans la situation dans laquelle l'action a été menée, elles avaient perdu cette capacité.
Stéphane explique que son désir de s'investir aux côtés des autres et pour les autres lui est apparu comme une évidence dès son plus jeune âge, probablement enraciné dans son environnement où il a été témoin de situations de pauvreté poignantes et d'endettement. Cet engagement, il l'a poursuivi lors de ses études supérieures à Neoma, une école de commerce à Rouen.
Quand j'ai décidé donc de rentrer à l'école de Rouen, je m'étais engagé quelques mois plus tôt avec la Croix-Rouge en Côte d'Or pour monter une mission d'entraide et de solidarité internationale entre jeunes et en partenariat avec la Croix-Rouge tchadienne. Et donc, on était un petit groupe d'une dizaine de jeunes à financer cette mission qui allait durer un mois. Et dont le but, et ça tournait beaucoup autour du sida notamment, et donc le but était, avec un médecin, de sensibiliser, c'était le début de l'épidémie, on était en plein début de l'épidémie, et de sensibiliser à plein de sujets autour du sida. Et donc, en arrivant à l'école, je me souviens très bien, puisque là où pas mal de mes copains montaient des campagnes BDE et autres, moi, je paraissais sans doute comme Manu Luberlu à vendre des pins. Alors, peu de gens savent aujourd'hui ce que c'est que les pins, mais c'est des petites broches qu'on mettait sur ses manteaux ou ses pulls et qui étaient à la mode à l'époque. J'en ai des pins pour la Croix-Rouge pour partir au Tchad. Donc ça, c'était un moment qui a été amusant au sein de l'école. Et plus largement, en parallèle de l'école, j'ai fait de la sociologie à la fac pour me nourrir un peu l'esprit également. J'ai rencontré quelqu'un d'impressionnant qui s'appelle Jean-Luc Naël, qui était le patron de ce cursus universitaire. Qui est un anthropologue, un ethnopsychiatre, et qui était également, à l'époque, vice-président de Médecins Sans Frontières. Et donc, à la fin d'un cours, je suis allé le voir en lui disant « Comment je fais pour rentrer chez MSF ?» Parce que c'était devenu évident pour moi que je voulais travailler pour une structure telle qu'MSF. Et c'était devenu de plus en plus évident que j'aurais préféré que ce soit MSF pour des tas de raisons. On y reviendra sans doute. Donc, ce prof m'a dit « Faites de l'audit financier. » Ce qui n'était pas du tout la réponse à laquelle je m'attendais, et pas du tout ma tasse de thé à l'époque. Mais comme j'ai demandé conseil, et ça c'est une leçon que je me suis souvent appliquée, quand on demande un conseil à quelqu'un parce qu'on pense qu'il est intéressant de l'écouter, même si la réponse vous surprend, il faut réfléchir à deux fois avant de ne pas l'écouter. Et donc je l'ai écouté, Jean-Luc Naël, et donc j'ai choisi ensuite de faire une année césure. Donc j'ai quitté ma promo à l'école pour 18 mois d'expérience en entreprise. J'ai fait 12 mois au sein d'une entreprise d'informatique autour de sujets de qualité. J'ai choisi cette structure parce que le stage était très rémunérateur et mon choix de faire une année entreprise était de pouvoir rembourser mon prêt. J'ai emprunté l'ensemble de mes frais d'études et je voulais vraiment rembourser mon prêt avant d'être diplômé ou juste au moment où j'étais diplômé pour pouvoir partir en mission humanitaire juste après. C'était ça le plan. Et donc, j'ai choisi de faire 12 mois bien rémunérés qui me permettaient de rembourser mon prêt. Puis, j'ai fait 3 mois bénévole au journal La Rue. C'était un journal, une entreprise d'insertion et de presse créée par des journalistes de Libé et vendue par des SDF au profit des SDF. Donc, c'était un stage hyper enrichissant là également. Et puis après 3 mois donc en audit financier, puisque c'était le conseil qu'on m'avait donné, j'avais choisi Arthur Andersen parce que c'était le cabinet d'audit qui... contrôlait Médecins Sans Frontières à l'époque. Et tout l'enjeu était qu'ils me choisissent également. Et donc, il y avait un forum d'audit. Et on était la dernière école dans laquelle ils prenaient des stagiaires. Et donc, je n'avais pas les dominants de finance, audit et compagnie, parce que ce n'était pas du tout mon truc. Et je me souviens très bien que l'entretien a tourné autour du Scrabble pendant une demi-heure. L'associé ne comprenant pas au début pourquoi on pouvait être passionné à ce point par un jeu cérébral. Et finalement, j'ai eu la bonne surprise d'être pris et de faire ce stage chez Arthur, que j'ai rejoint par la suite.
À suivre. Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Ce podcast est produit par MedCheck Studio, le premier studio spécialisé dans la production et la promotion de podcasts pour le secteur de la santé. Pour continuer à suivre l'actualité de ce secteur, nous vous encourageons à faire un tour sur le site de notre partenaire pharmaceutique. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas d'en parler à vos amis, à vos familles ou à vos collègues. Nous pouvons tous apprendre et être inspirés par les grands leaders de la santé.